Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web avec Stéphane Crozat et Audrey Guélou.
So going back to 1989, I wrote a memo suggesting a global hypertext system. Nobody really did anything with it very much. But 18 months later, this is how innovation happens. 18 months later, my boss said I could do it on the side as a sort of a play project. Kick the tires of a new computer we got. And so he gave me the time to code it up. So I basically roughed out what HTML should look like, hypertext protocol, HTTP, the idea of URLs, these names for things, which started with HTTP. I wrote the code and put it out there. Why did I do it? Well, it was basically frustration. I was frustrated. I was working as a software engineer in this huge, very exciting lab. Lots of people coming from all over the world. They brought all sorts of different computers with them. They had all sorts of different data formats, all sorts of kinds of documentation systems, so that in all that diversity, if I wanted to figure out how to build something out of a bit of this and a bit of this, everything I looked into, I had to connect to some new machine, I had to learn to run some new program, I would find the data, maybe the information I wanted, in some new data format, and these were all incompatible.
Bonjour à tous, c'était Tim Berners-Lee, l'un des inventeurs du web, donc lors d'une conférence TED en 2009, qui nous expliquait comment en 1989, il avait commencé à travailler, comme il le dit, sur un coin de table, sur HTTP ou HTML. Voilà, et donc c'est un des précurseurs du web. Bienvenue à tous sur le cours émission de l'UTC WE01. Je suis Stéphane Crozat, accompagné d'Audrey Guélou, Léo à la réalisation, et aujourd'hui on a deux invités illustres en studio, Quentin Duchemin et au téléphone Kian Pichou. Bonjour à tous les deux.
Salut Stéphane.
Bonjour Kian, on t'a moins bien entendu, mais tu nous as salué quand même. Vous êtes tous les deux ingénieurs UTC, tous les deux pionniers de l'association Picasoft, et aujourd'hui c'est vous qui allez nous expliquer comment fonctionne Internet. Alors vous nous avez préparé un petit plan en 5 parties, Internet avant le web. Donc peut-être pour faire le lien avec le dernier cours émission qui avait été animé par Stéphane Bortsmeyer. Ensuite, vous allez nous parler du web comme système d'information décentralisé et interconnecté grâce aux hypertextes. Puis, vous nous parlerez des choix techniques et de leurs implications politiques. Ensuite, on abordera le protocole central du web HTTP. Et enfin, vous conclurez autour des questions de sécurité des échanges, d'authenticité des sites web à travers des principes techniques et probablement un certain nombre d'enjeux politiques.
Pour approfondir le cours, vous pourrez retrouver les supports et les exercices sur librecours.net. Ensuite, vous pouvez retrouver les cours émissions sur l'instance aperi.tube. C'est une instance peertube, aperi.tube. Vous pouvez nous poser les questions, poser vos questions à Quentin, à Kian et à Stéphane via l'outil de messagerie instantanée Mattermost à l'adresse team.picasoft.net, équipe WE01 Canal Live. Et vous pouvez également poser vos questions via Twitter et Mastodon avec le hashtag Upload. Quentin, est-ce que tu souhaites commencer par cette première partie ?
Eh bien écoute, c'est parti, je crois qu'on a un extrait avant que je commence.
Eh bien Quentin, on le mettra après que tu aies commencé si ça te va. Donc tu as la main et après un extrait.
Très bien, très bien. Eh bien c'est parti, donc comme on ne vient pas de l'entendre dans cet extrait, en tout cas l'ambition de rassembler et de structurer tout le savoir de l'humanité est bien antérieure à celle de à l'existence de l'Internet. Et
est-ce que tu préfères qu'on passe l'extrait peut-être, Quentin ?
Ah, je suis méga chaud parce que j'avais brodé un truc fabuleux dessus.
Allez, c'est parti pour le rêve de Paul Hotelet en introduction, en double introduction du coup de ton intervention, Quentin, c'est parti.
Il y a un côté Internet dans la démarche d'Hotelet et Lafontaine. Mais évidemment, il y a une différence fondamentale entre la démarche d'Hotelet et l'Internet. C'est que Hotelet a une vision finie du monde et du savoir, comme Auguste Comte. Il a l'impression qu'on va pouvoir organiser le monde, le comprendre, l'appréhender en une fois. hein, d'où ce globe que nous avons fait construire. Ce globe, vous envoyez les bouts. Tandis que dans le réseau Internet, personne ne sait ce qu'il y a, personne ne sait où ça commence et où ça finit. Personne n'a l'ambition aujourd'hui de comprendre le monde, de l'appréhender, d'être une espèce de pic de la mirandole moderne. Tandis que Hotley est encore dans ce rêve-là.
Ah, je me sens beaucoup mieux comme ça. Donc, comme on vient de l'entendre dans cet extrait, l'ambition de rassembler le savoir de l'humanité est bien antérieure à l'Internet. Et Paul Hotley, qu'on vient d'entendre, a contribué à fonder le répertoire bibliographique universel en 1895, qui a contenu plus de 18 millions de fiches bibliographiques. Ces fiches renseignaient sur les publications de tous les temps et répondaient à deux grandes questions. Quels sont les ouvrages écrits par tel auteur et qu'a-t-on écrit sur tel sujet ? Dans son traité de documentation, publié en 1934, Hotley imaginait une technique d'accès à distance à l'information qui peut faire sourire aujourd'hui, je cite, « le télescope électrique permettant de lire de chez soi des livres exposés dans les salles des grandes bibliothèques aux pages demandées d'avance. Ce sera le livre téléphoté. » Fin de citation. Presque un siècle plus tard, les fibres optiques remplacent le télescope d'Hotley et tous les disques durs combinés forment la bibliothèque la plus ambitieuse jamais imaginée. Ces ordinateurs échangeant de l'information au sein d'un réseau mondial, c'est l'Internet que Stéphane Borsmeyer vous a détaillé lors de la dernière émission. Alors pourquoi remettre le couvert cette semaine ? Eh bien parce que quand vous vous rendez sur Wikipédia, sur un réseau social, sur un site d'actualité, et peut-être même si vous écoutez cette émission sur graphite.net, eh bien vous n'allez pas sur Internet, mais vous allez sur le web. Et si on utilise fréquemment les deux termes comme des synonymes, ils désignent des choses bien différentes. Internet, comme l'a expliqué Stéphane, est donc ce réseau de réseaux qui permet d'échanger des paquets entre toutes les machines qui y sont connectées. Et le web, quant à lui, inventé en 1989, est une application de l'Internet, c'est-à-dire un système qui s'appuie sur l'Internet. Alors pourquoi avoir inventé le web ? Eh bien, pour y répondre, on peut se demander à quoi ressemblait l'Internet avant le web. Alors moi, je suis trop jeune pour en témoigner directement, mais des personnes dans ce studio que je ne citerai pas pourront le confirmer. Avant le web, il existait bien d'autres applications de l'Internet, dont certaines toujours en usage aujourd'hui. Par exemple, dès 1971, le protocole FTP permet de se connecter à un ordinateur distant pour déposer ou récupérer des fichiers. Pour s'informer et échanger, à partir de 1979, on trouve Usenet, un système de forum en réseau. Avec Usenet, on peut s'abonner à des groupes, souvent thématiques, y publier des articles et recevoir ceux qui y sont diffusés. Dès 1982, on peut utiliser les mails et à partir de 1988, IRC permet de créer des salons de discussion instantanés, lointains ancêtres des systèmes de messagerie modernes comme Mattermost. Peu avant l'invention du web, donc, on a déjà un système d'ordinateur connecté mondialement, des moyens d'envoyer et de récupérer des fichiers, de s'abonner à des groupes thématiques et de discuter en temps réel. Parallèlement, la production de l'humanité, que ce soit dans les arts, la science, le divertissement, etc., s'accroît exponentiellement et Internet permet déjà de partager ses productions avec le monde entier. On peut donc se reposer la question, pourquoi le web ? Eh bien parce qu'il manque un élément décisif pour transformer le joyeux foutoir que je viens de décrire en un gigantesque système d'information que l'on connaît aujourd'hui comme le web, c'est les URL et le système d'hypertexte dont je vous reparlerai tout à l'heure.
Merci beaucoup Quentin. Alors tu viens de nous faire une magnifique explication de l'histoire du web et tu nous parlais précisément du World Wide Web. Alors j'ai aussi entendu parler du Deep Web, du Dark Web. Est-ce que ces noms qui font parfois peur, est-ce que ces applications fonctionnent différemment du World Wide Web ou est-ce que ce sont des applications qui fonctionnent similairement ou qui ont été créées pour les mêmes objectifs que le World Wide Web ?
Alors ça dépend, effectivement, c'est une super question qu'on peut être amené à se poser. On reparlera d'indexation tout à l'heure. L'indexation, on va dire que l'ensemble, la partie du web qui est indexée, c'est l'ensemble des ressources du web qui sont disponibles via les moteurs de recherche. Et en général, ce qu'on appelle le deep web, le web profond, c'est toute la partie du web qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Donc moi, typiquement, si demain je mets un site en ligne et que je le dis à personne et que je le référence nulle part, il fera partie du deep web, donc rien de très effrayant. Et le dark web, quant à lui, on utilise en général ce terme pour désigner toutes les un système qui s'appelle le réseau Tor, qui se construit par-dessus l'Internet, comme le web, mais qui est bien une sorte de web un petit peu parallèle, même s'il se base aussi sur le protocole en partie HTTP, donc Yann vous reparlera.
Merci Quentin. Effectivement, à travers cette question, on voit qu'aujourd'hui, il y a en quelque sorte également des applications qui se font sur le web et qui ont également tendance à masquer en quelque sorte notre compréhension du web. Par exemple, si on utilise massivement un réseau social, eh bien, on a l'impression, enfin, on utilise Facebook ou Twitter, qui lui-même s'appuie sur le web, qui lui-même, on l'a compris, s'appuie sur Internet. Alors on va rentrer un petit peu plus en détail dans les aspects techniques. Donc je crois que pour la seconde partie, c'est Kian qui va avoir la main et on va donc certainement... Donc c'est Quentin qui va continuer, qui va rester donc sur le fil. Et donc je suppose, Quentin, que tu souhaites ton extrait avant. Nous allons donc avoir Robert Caillot qui va nous parler de la naissance du web et de l'URL.
J'ai écrit une proposition pour étudier les hypertextes par le réseau du CERN parce que je voyais, c'était l'ère où le LHC commençait à se concevoir et je voyais beaucoup de physiciens qui transportaient des disquettes ou les envoyaient les uns aux autres alors qu'en fait, il y avait un réseau. Et donc, j'ai fait une proposition pour un système de documentation par réseau et par hypertexte, et la même année, mais un kilomètre plus loin sur le même campus, il y a Tim Berners-Lee qui a fait une proposition semblable, mais basée sur l'Internet. Et comme elle était basée sur l'Internet, c'était bien beaucoup plus ouvert et beaucoup plus utilisable, donc je me suis joint à lui. Si on prend tout ce qui est web, et on dit, bon, ben, ça existait avant, comme l'HTML, ça existait avant, un protocole de transfert, barata machin. On arrive à enlever tout ce qui existait avant. Qu'est-ce qui reste qui est vraiment la chose qui fait marcher le web? C'est l'URL, ou l'URI, qu'on devrait l'appeler, mais bon. Et ça, c'est vraiment la grande et originelle contribution de Tim Berners-Lee, c'est l'URL. C'est l'idée de combiner le protocole, la machine où se trouve l'information, et une partie qui est la partie qui est interprétée par la machine et où on peut donc mettre n'importe quoi, y compris des requêtes à une base de données. Mais même ça, c'est un peu biscorni et bizarre, parce que si vous regardez, le double point peut-être, les deux barres obliques là, on n'a jamais su pourquoi ils sont là. Même Tim ne sait pas. J'ai assisté à des discussions avec Tim où il dit « Ouais, en fait, ouais, bon, bah, c'est comme ça, mais en fait, on pourrait bien laisser tomber les deux barres obliques, là, ils n'ont aucune fonction. »
Kian reviendra un petit peu plus en détail sur le fonctionnement des URL, mais effectivement, aujourd'hui, quoi de plus naturel que de rentrer team.picassoff.net/we01 dans un navigateur web pour se rendre sur l'équipe W01 du Mattermost de Picassoff. Eh bien, pourtant, et de manière cruciale, le système d'URL a révolutionné l'accès aux productions humaines. Alors rappelez-vous, en introduction de l'émission, Tim Berners-Lee faisait part d'un problème. Le CERN, où il travaille en tant qu'ingénieur informatique, produit une masse considérable d'articles scientifiques, de documentation technique, de mémos, bref, tout ce qu'on s'attend à trouver dans un laboratoire de recherche. Pour autant, imaginez un instant que vous êtes un chercheur au CERN et que vous cherchez à consulter une ressource numérique. Alors vous savez qu'elle existe, mais où allez-vous la chercher? Alors, il faut d'abord savoir sur quel ordinateur elle se trouve. Et une fois que vous savez où elle est, il faut réussir à s'y connecter pour la récupérer. Et si cette ressource fait référence à une autre ressource située ailleurs, eh bien il faut tout recommencer depuis le début. Trouver l'ordinateur, trouver comment s'y connecter, trouver la ressource, etc. Alors si un système comme le répertoire bibliographique universel de Paul Hautelet appliqué à l'Internet permettrait de référencer toutes les ressources et leur localisation, eh bien il ne règle pas le problème de la référence entre ressources qui fait perdre beaucoup de temps et qui est essentielle dans la production scientifique. Alors ce problème épineux est connu depuis longtemps en théorie de l'information, et déjà en 1945, avant l'heure de l'informatique en réseau, l'ingénieur américain Vannevar Bush imaginait dans son essai As We May Think un système qu'il nomme MEMEX, pour Memory Extender, et cet objet, resté au stade de concept, permettait de numériser, en théorie, tout type de ressources, photographies, livres, articles, schémas, etc., et permettait de relier n'importe quelle ressource à une autre, créant ainsi des séquences que l'on peut parcourir, mimant un cheminement de pensée. Et c'est bien le genre de système dont auraient besoin, à l'époque, les chercheurs du CERN. Dans cet essai, justement, Bush prévoyait que, je cite, « des formes entièrement nouvelles d'encyclopédies vont voir le jour, sous la forme d'un maillage parcouru par des associations d'informations ». Cette idée décisive ressemble bien au web tel qu'on le connaît aujourd'hui et a très vraisemblablement influencé Berners-Lee et Caillot pour imaginer les deux concepts cruciaux du web dont il a parlé dans l'extrait qu'on vient d'entendre, les URL et le système d'hypertexte. Alors à ce stade, on a juste besoin de savoir qu'une URL est un identifiant textuel unique qui permet d'identifier une ressource sur le web. À chaque fois qu'on parle d'adresse web, on désigne donc bien une URL. Une URL se découpe en plusieurs parties, dont deux sont particulièrement importantes. La première partie permet de retrouver l'ordinateur où se trouve la ressource, et la seconde permet de retrouver la ressource une fois que l'on a accédé à l'ordinateur en question. Et c'est en combinant les URL, ce système d'identification, avec le système d'hypertexte, que le problème de la référence à une ressource distante est résolu de manière très élégante. Alors supposez que sur la machine A, j'écrive un billet de blog qui fait référence à une image située sur la machine B. Eh bien, sur le web, il me suffit d'utiliser l'URL de l'image située sur la machine B pour y faire référence depuis la machine A de manière non ambiguë. Et l'idée de génie du web, c'est d'automatiser la récupération de cette image par le système d'hypertexte. C'est-à-dire que le navigateur web qui affiche le billet de blog en se connectant à la machine A rencontre l'URL de l'image, comprend qu'elle se situe sur la machine B, se connecte à la machine B, récupère l'image et combine les deux ressources. Autre exemple, tous les liens que vous voyez sur une page web sont des hypertextes. Et dès que vous cliquez dessus, votre navigateur automatise la transition entre la page que vous consultiez et la nouvelle page. On se retrouve donc avec ce système d'hypertexte avec une sorte de toile d'araignée. Les croisements sont les ressources du web et les fils sont les chemins pour y accéder. Cette toile est constituée de chemins qui sont orientés, comme l'avait imaginé Bush. Pour illustrer ça, il y a un jeu sur Wikipédia qui consiste à trouver le chemin le plus court entre deux pages en devinant par quelle page on peut passer en allant de lien en lien. Donc c'est le genre de chemin en fait qui forme la toile. Et à ce stade, les implications pour l'ingénierie documentaire, eh bien, elles sont gigantesques, puisque en plus de résoudre le problème de la référence à une ressource distante, qui causait tant de problèmes aux chercheurs du CERN, eh bien, le système d'hypertexte permet l'indexation. On en parlait justement avec ces histoires de Deep Web. L'indexation du web consiste à essayer de répertorier toutes les pages qu'il constitue. Donc le fonctionnement de base est très simple. Vous partez de toutes les pages que vous connaissez, vous suivez toutes les URL que vous croisez, vous obtenez de nouvelles pages, de nouvelles ressources, vous gardez celles que vous ne connaissez pas et vous continuez. C'est aussi simple que ça. Un programme qui fait cette opération automatiquement s'appelle un crawler et c'est la base des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, donc, en plus d'indexer les adresses des pages, indexent aussi leur contenu, de manière à pouvoir non seulement répondre à des questions du style « alors quelles sont toutes les pages qui parlaient de tel ou tel sujet en 2010 », mais aussi d'accéder à ces pages en un seul clic. Une autre implication forte du web est la réduction de la duplication et la facilité de mise à jour des ressources. Donc avant le web, si je voulais inclure une image distante dans une page, par exemple un logo, eh bien, il fallait que je le copie, ce logo, dans chaque page. Et en cas de changement de logo, tous mes documents devenaient obsolètes et j'étais obligé de les modifier un par un. Avec le système d'hypertexte, je peux faire référence à mon logo grâce à une URL qui pointera toujours sur la version la plus à jour. Donc dès que je change de logo, les documents sont automatiquement mis à jour. Et voilà comment deux concepts assez simples, finalement, à comprendre, l'URL et l'hypertexte, ont révolutionné la gestion de l'information.
Merci beaucoup Quentin. Alors, par exemple, si je tape une URL dans mon navigateur, donc à tout hasard https://picasoft.net, sans passer par un moteur de recherche, donc mon navigateur, pour afficher cette page, mon navigateur ne va pas parcourir tout le web jusqu'à trouver la bonne URL ou, comme tu le disais en premier, le bon ordinateur qui contient la ressource. Alors, comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça va aussi vite pour afficher et pour trouver la page?
Alors, parce qu'il existe un système, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, qui s'appelle DNS, qui permet de faire l'association entre la première partie d'une URL qui désigne la machine où se trouve le fichier. Et en fait, ce système va permettre de transformer cette partie, qu'on appelle le nom de domaine, en une adresse IP qui est l'identifiant qui permet d'identifier de manière non ambiguë un ordinateur. Et donc, une fois qu'on a directement été sur cet ordinateur avec la première partie, on pourra retrouver le fichier qui est situé dessus.
Alors, je précise, hein, même si je pense que c'était clair, il me semble qu'on n'a pas utilisé le mot adresse web ou pas beaucoup. Hein, donc URL, c'est le synonyme. Hein, on utilise communément également le mot adresse web en français. Et tant qu'on est pour la partie anglaise, URL, ça veut dire Uniform Resource Locator. Donc effectivement, une sorte de système de localisation de ressources uniformisé. Quentin, t'as parlé d'un des usages de l'URL qui consiste à pouvoir, par exemple, insérer un logo dans plusieurs pages web sans le recopier. Eh bien, cette mécanique, cette technique, ça s'appelle la transclusion. Et la transclusion, c'est un mot et donc un concept qui a été posé par quelqu'un qui s'appelle Ted Nelson. Et figure-toi que le prochain extrait est de Ted Nelson. C'est parti.
There was a sense of possibility at the beginning that is different because we thought computing would be artisanal. We did not imagine great monopolies. We thought the citizen programmer would be the leader. I'll never forget a fellow named Lyle Morrow, who wore a helicopter beanie, and he sold a program called What's It? And the prompt was, what's it, question mark, and then you would ask something. It was very cute, and it was very clever. And that was, to me, the paradigm, the model of how it was going to be. But on the other hand, I did have an ambition of creating a great software company, even in those days of artisanal and democratic visions, the entrepreneurial spirit and the notion of building up great enterprises was part of the dream for everyone.
Alors, pour résumer et formaliser ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, le web, c'est un grand système d'information qui s'appuie sur l'Internet, qui est constitué d'un ensemble de ressources identifiées de manière unique par des URL et qui peuvent faire référence les unes aux autres. Donc, toutes les pages du web sont consultables grâce au protocole HTTP, dont Yann va vous parler dans quelques minutes, et forme une gigantesque toile que l'on peut parcourir au fil des liens. Mais avant de rentrer dans les détails techniques, je voudrais juste revenir sur le fait que ces choix qui ont été faits pour comme base du web, eh bien, ils ont des implications politiques et sociales extrêmement fortes. Mais entre implications théoriques et pratiques, il y a toujours un écart considérable qui résonne avec ce que décrit Tendenson dans l'extrait que vous venez d'écouter, où l'ambiguïté entre esprit démocratique et artisanal et esprit entrepreneurial est permanente. Donc la première conséquence de ces choix techniques, puisque le web s'appuie sur Internet, c'est qu'il est décentralisé, il n'y a donc pas de chef du web. Personne n'a besoin d'une autorisation pour mettre en ligne une ressource sur le web. Personne ne peut supprimer à votre place une ressource que vous avez mise sur le web, même si la loi peut vous y obliger. Personne ne peut fermer le web, n'en déplaise à certains gouvernements autoritaires. Mais en face de ce web horizontal théorique, eh bien, comme tu me disais Stéphane, pour le grand public, le web ressemble parfois à un cercle fermé de quelques acteurs tentaculaires, Google, Facebook, Twitter, Amazon et Netflix, pour n'en citer que quelques-uns. Sur ces plateformes, vous ne décidez rien et le pouvoir est très centralisé. Donc si le web est techniquement décentralisé, dans les faits, il est assez centralisé. Dans la même veine, le web ne suppose aucun équipement matériel spécifique pour s'y connecter, à part un accès à Internet. En ce sens, il est universel. N'importe quel appareil capable de se connecter à Internet et sachant parler HTTP peut récupérer une ressource sur le web. Si j'arrive à connecter ma cafetière à Internet et que je lui apprends à parler HTTP, eh bien, elle pourra aller sur le web. Et je ne prends pas l'exemple au hasard, hein, c'est à la base un poisson d'avril d'informaticien qui a fini par véritablement exister. Mais dans les faits, pour beaucoup d'utilisateurs, eh bien, la porte d'entrée du web ressemble à un smartphone équipé de Google Chrome. Alors autre exemple, les langages du web que vous avez, je crois, déjà vus, comme HTML, CSS ou JavaScript, et le protocole du web, HTTP, sont tous des standards ouverts et établis démocratiquement. Donc personne ne peut décider de modifier HTTP pour inclure des méthodes de pistage publicitaire, par exemple. Et c'est logique, puisqu'il n'y a pas de chef du web. Tous les acteurs doivent à peu près être d'accord pour qu'une modification ait lieu. Une conséquence de ce processus démocratique, c'est qu'une page web devrait avoir la même apparence sur n'importe quel navigateur, puisque les acteurs se sont justement mis d'accord sur la signification de telle ou telle balise. Pour les langages du web, c'est le consortium W3C qui assure ce rôle d'espace démocratique. Et pourtant, en pratique, le lobbying de l'industrie sur le W3C est gigantesque et de nombreuses critiques quant au processus démocratique lui sont adressées. Pire, puisque la grande majorité des personnes utilisent Google Chrome pour aller sur le web, eh bien, il suffit que Google décide que telle ou telle balise aura telle signification pour que de fait le langage ait évolué. Le manque de diversité dans les acteurs du web biaise donc le jeu démocratique qui s'est censé se produire en théorie. Et pour terminer, grâce au mécanisme d'indexation, si je mets une nouvelle ressource sur le web, eh bien, je n'ai pas besoin d'aller demander à un bibliothécaire ou à un libraire d'accepter de référencer mon livre pour que le monde entier puisse tomber dessus. Il ne suffit que le crawler d'un moteur de recherche tombe dessus, l'indexe et la rende disponible dans ses résultats de recherche. Mais comme en pratique, puisque la majorité des personnes utilisent Google comme porte d'entrée du web, je parle bien du moteur de recherche, eh bien, Google peut très bien décider de ne pas indexer une page spécifique pour une raison arbitraire et la rendre ainsi virtuelle. Absente du web.
D'accord, Quentin. Alors, Tu nous as expliqué tout de même donc, la gouvernance démocratique du web et puis malgré cela la présence de monopoles sur le web. Alors la vision démocratique du web était donc à la base de ce que nous expliquait, de ce que disait Ted Nelson dans l'extrait juste avant ta partie. Et puis il nous parlait aussi d'une vision artisanale du web et il parle d'un citizen programmer. Alors cette tendance ou cette vision d'un web artisanal et cette position de citizen programmeur qu'on voit peut-être moins ou alors c'est peut-être juste une fausse vision, comment est-ce qu'on peut encourager, aller davantage vers cette tendance d'un web artisanal et puis d'un web peuplé de citizen programmeurs? Est-ce que tu aurais quelques pistes à suivre pour cela?
Déjà je trouve que suivre W01 c'est une excellente chose, il me semble, parce que c'est... Je trouve vraiment que le côté à la fois comprendre comment fonctionne le web et mettre les mains dans le cambouis est vraiment très chouette. Et voilà, globalement, je pense que se rapprocher des associations qu'il y a autour de chez soi et puis retrouver le plaisir de faire et de reprendre le pouvoir sur les outils numériques qu'on a autour de nous, je pense que c'est déjà pas mal.
Il y a aussi un aspect que l'on peut souligner là-dessus. Et effectivement, comme le dit Ted Nelson et comme tu l'as ressouligné, Quentin, la tension, elle existe depuis l'origine entre faire des choses assez simples, assez basiques, comme effectivement aujourd'hui des choses qu'on fait en WE1, ou d'ailleurs, j'en profite sur Libre Cours en ce moment, on a démarré une autre formation qui est ouverte à tous sur l'initiation à utiliser, à mettre en ligne un serveur sur Internet pour y mettre notamment un serveur web. Donc ça aujourd'hui ce sont des choses qui sont simples à faire, accessibles à de nombreuses personnes, mais il faut en convenir qu'ils permettent également de faire des choses simples, donc des pages HTML basiques avec effectivement des applications documentaires assez simples. Il est évident qu'aujourd'hui on a des demandes applicatives et on a une offre applicative qui est extrêmement élevée et qui rend la réalisation d'applications web beaucoup beaucoup plus complexe, avec des usages très avancés d'un langage comme JavaScript par exemple, utilisation de framework, etc. qui fait qu'il y a une professionnalisation très très forte d'un certain nombre d'applications. Et donc il y a un enjeu là de... il me semble qu'à l'UTC, il y a un mot qui est en train de s'imposer, de low-technicisation. Clin d'œil à mes collègues qui l'ont forgé. Mais il me semble qu'il y a un enjeu également autour de ça. Mais si on ne veut pas trop dériver, eh bien on va, donc comme tu nous l'as proposé, Quentin, arriver sur les dimensions un peu plus techniques du web. Et pour ça, donc, tu passes la main à Kian. Donc Kian, je crois que tu vas nous parler à présent du protocole HTTP. La question est, souhaites-tu l'extrait avant ou après ton intervention?
Eh bien, n'ayant pas forcément de préférence, je propose qu'on garde le rythme actuel et qu'on écoute cet extrait juste avant que j'enchaîne.
Tim Berners-Lee a inventé le web avec Robert Caillot au CERN comme un moyen de diffuser de l'information scientifique dans les années 89-90 à peu près. Et il a fallu attendre 93 pour avoir un premier modèle que je ne peux même pas qualifier de propre, c'est franchement dégueulasse, d'HTML qui s'appelait HTML+. C'était extrêmement laxiste, c'était sous-spécifié, c'était du gros n'importe quoi. Et là, les premières tentatives de faire du web propre et standard et de penser à l'interopérabilité dans les navigateurs, c'était HTML3 et 3.2, avant le vrai premier standard. Eux n'ont jamais été publiés ou presque. HTML4.0 en décembre 1997 sous les auspices du W3C.
Alors, comme Quentin nous l'a dit juste avant, le web n'a pas de chef centralisé. Le web, lui, fonctionne sur un mode que l'on appelle client-serveur. En fait, le serveur va posséder une ressource, par exemple la page web que l'on souhaite consulter, et le client va faire une requête au serveur pour demander, puis obtenir la ressource. Et si, en fait, on utilise les termes client et serveur, c'est pas par hasard, c'est parce que l'on peut vraiment faire l'analogie avec la commande d'un plat ou d'une boisson au restaurant. Alors, tout lien avec l'actualité d'aujourd'hui est complètement hasardeux. Hein. En réalité, ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que le client, c'est ici un navigateur web sur votre ordinateur, par exemple Mozilla Firefox. Ce n'est pas un délicieux burger qui est commandé, mais c'est une page web qui est demandée. Et le serveur est en fait simplement une autre machine connectée à Internet qui va traiter la demande et renvoyer la ressource qui a été demandée au lieu d'un excellent plat. Pour communiquer, un client et un serveur humain vont s'exprimer dans une langue commune. Alors, par exemple, en France, généralement, c'est le français. Pour les échanges sur Internet et donc sur le web en particulier, c'est pareil, mais on parle plutôt de protocole. Et dans le cas du web, il s'agit du protocole HTTP, hein, qui a déjà été mentionné plutôt dans l'émission, qui signifie Hypertext Transfer Protocol. Hein, donc c'est littéralement le protocole de transfert d'hypertexte. Alors, dans le protocole HTTP, chaque échange fait l'objet d'une requête et d'une réponse pour chaque ressource. Lorsqu'on se rend sur un site internet, par exemple, enfin un site web, on va dire plutôt, c'est généralement plusieurs dizaines de requêtes qui sont faites en réalité en arrière-plan pour récupérer la page, les images, les règles de style CSS, etc., etc. Toutes les ressources qui composent le site que l'on souhaite consulter. Alors, on l'a déjà dit à multiples reprises, mais sur le web, chaque ressource est précisément identifiée par une adresse qui est unique, que l'on appelle l'URL. Je reviens un peu dessus parce que c'est vraiment une notion centrale du fonctionnement du web. Ces adresses, donc, qu'on a toutes et tous déjà vues, hein, contiennent plusieurs informations. On va y trouver, pour commencer, le protocole. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les URL du web, elles commencent par HTTP ou HTTPS ././/. C'est pour signifier le protocole. Alors, quand vous utilisez un navigateur web, généralement, il sait que vous allez faire du protocole HTTP ou HTTPS, dont je parlerai juste après. Donc, on n'est même plus forcément obligé de le taper que dans votre barre d'adresse. À la suite de l'URL, on a indiqué l'adresse du serveur qui a contacté, qui va posséder la ressource que l'on souhaite, comme l'exemple que donnait Quentin tout à l'heure, par exemple, team.picassoft.net, c'est l'adresse d'un serveur qui est connecté sur Internet. Et enfin, la dernière information qui est vraiment requise dans l'URL, c'est le nom de la page que l'on visite, et c'est toute la partie qui va se trouver après le nom du serveur et qui va commencer par un slash. Cette partie, elle est traitée plutôt du côté du serveur pour savoir précisément quelle est la ressource que vous demandez sur le site. Et pour terminer, on ne va pas forcément s'attarder dessus, mais le reste de l'URL peut contenir une succession d'informations facultatives qui sont parfois envoyées au serveur et ça permet de traiter correctement la requête. Et donc, pour compléter notre exemple, si je tape dans mon navigateur http://team.picassoft.net/wv01, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le navigateur va savoir qu'il doit utiliser le protocole HTTP, donc pour faire du web, qu'il va devoir contacter le serveur team.picassoft.net et qu'il va devoir demander la page WE01, en réalité /WE01, si on veut être plus précis. Et donc, c'est ce qu'on disait juste avant, ça correspond à la page de l'équipe Mattermost qui est utilisée dans le cadre de WE01 et qui est hébergée sur un serveur de Picassoft. Alors, l'URL, on le redira, c'est un composant important dans le protocole HTTP car c'est elle qui permet d'indiquer la ressource web que l'on va manipuler. Et si j'utilise bien le mot manipuler et non demander ici, c'est parce qu'en réalité, le protocole HTTP il permet de réaliser de nombreux types d'opérations différentes. Alors effectivement, lorsqu'on navigue sur un site internet, on fait généralement que de demander des ressources au serveur, donc les images, la page web, etc. Mais il peut arriver, par exemple, lorsque l'on complète et envoie un formulaire au hasard pour se connecter à un site, ben, dans ces cas-là, notre navigateur il va utiliser le même protocole HTTP, mais cette fois pour créer une ressource. Ici, donc, le formulaire de connexion auprès du serveur. Et de la même manière, le protocole HTTP permet de modifier ou de supprimer des ressources, bien que cela soit généralement limité aux personnes qui administrent les sites web et donc beaucoup plus rare pour une personne, on va dire, qui a un usage classique du web. Mais c'est donc vraiment un protocole qui est prévu pour la manipulation de ressources et pas simplement la consultation passive de pages HTML ou autre type de ressources. Alors, dès ses débuts, dans les années donc, de 1990, le protocole HTTP il a aussi été pensé extensible. Dès sa standardisation en 1996, la version 1 de HTTP elle prévoit la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires dans les échanges pour enrichir le protocole avec de nouvelles fonctionnalités dans le futur. C'est ce qu'on appelle des templates, qui sont simplement des informations textuelles ajoutées à la requête et à la réponse. Et le protocole ne prévoit pas de limite quant au nombre ou au contenu des templates que l'on rajoute dans les échanges. Ça permet donc d'ajouter très facilement des fonctionnalités à HTTP, comme par exemple de l'authentification, ou aussi des mécanismes un peu moins souhaitables, hein, comme du traçage d'utilisateurs. Et certaines extensions du protocole font parfois l'objet de standardisation parce qu'elles sont beaucoup utilisées et elles rentrent dans l'usage commun, mais en soi, rien n'empêche d'ajouter de nouveaux en-têtes pour répondre à des besoins très spécifiques, du moment que le client et le serveur sont capables de les analyser. Et en fait, dans un monde numérique, hein, où je ne vous apprends rien, la technologie elle évolue de plus en plus vite, elle est de plus en plus présente, c'est sans doute cette facilité d'évolution qui a fait de HTTP l'un des protocoles les plus utilisés sur Internet, et ce depuis bientôt 30 ans, avec en réalité assez peu d'évolutions majeures dans le fonctionnement de base du protocole.
Merci Kian pour toutes ces infos. Audrey, est-ce que tu as une question pour Kian? Moi, j'en ai noté quelques-unes, sinon. Hein.
Eh bien, je te laisse la main, Stéphane, et puis si jamais je pourrais reprendre, mais bien sûr, je t'en prie.
Kane, est-ce que tu pourrais revenir un tout petit peu sur un moment, tu as parlé de la manipulation des ressources. Robert Caillot, dans l'extrait, nous parlait de la possibilité pour un site web d'interroger une base de données, par exemple. Et tu nous disais à un moment, quand on récupère une ressource sur un serveur web, par exemple, /we01/index.html, ça fait un peu penser à la même chose que si on demandait le fichier index.html dans le dossier WE01 à la machine. Donc ça, on comprend un peu, j'ai l'impression qu'on comprend à peu près comment ça fonctionne, mais tu veux peut-être le repréciser. Et puis, peut-être nous montrer comment est-ce qu'on peut interroger une base de données, parce que ça, c'est peut-être moins évident dans le mécanisme que l'on utilise au quotidien.
Oui, bien sûr. Alors, on va généraliser en disant qu'il existe quatre types d'opérations qu'on peut généralement effectuer sur des ressources ou dans une base de données. C'est de créer des ressources, de consulter une ressource, d'en modifier ou de les supprimer. On utilise d'ailleurs en anglais l'acronyme CRUD pour Create, Replace, Update ou Delete. Create, Read, Update ou Delete. Pardon, j'ai dit deux fois le premier coup. Donc, ces quatre opérations, on peut les faire grâce au protocole HTTP en utilisant en fait ce qui s'appelle un verbe HTTP. Je ne l'ai pas précisé, mais quand on fait une requête auprès d'un serveur, on rajoute un verbe pour dire que l'on veut faire une opération, par exemple, de lecture d'une ressource. On utilise un verbe qui s'appelle get, ou de création d'une ressource. Dans ce cas-là, on utilise un verbe qui s'appelle post. Et de la même manière, on a un verbe qui s'appelle delete ou un verbe qui s'appelle patch pour d'autres types d'opérations. Et donc là, de la même manière, l'URL, elle sert à identifier la ressource qu'on va manipuler. Si je fais une requête HTTP, donc par exemple, si je fais un get donc pour obtenir la page WE01 sur team.picassos.net, je vais obtenir la ressource. Et si je fais une requête de type post, donc pour créer une ressource sur la même URL, le serveur là, va l'interpréter comme je veux créer une ressource à cet endroit-là sur la machine. Alors, dans l'exemple de team.picassos.net, ça ne fonctionnera pas parce que c'est une opération qui ne sera pas possible par tout le monde, mais que par les personnes qui font de l'administration. Mais concrètement, c'est comme ça qu'on va manipuler des ressources. Et le parallèle peut être fait avec des bases de données, mais généralement, les bases de données ne sont pas interrogées par le protocole HTTP parce qu'en fait, on ne fait pas du web. C'est un protocole différent. En fait, il y en a même plusieurs en réalité pour différents types de bases de données qui peuvent exister. Et dans ce cas-là, on va utiliser des langages qui vont, par exemple, en SQL, base de données. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait directement au niveau du navigateur en web. C'est quelque chose qui est fait au niveau du serveur qui va interroger la base de données. Mais les opérations sont similaires à celles que l'on peut faire avec un protocole HTTP.
Merci Kian, j'ai une seconde question à te poser, une seconde piste d'approfondissement. Tu as fait le lien entre les entêtes HTTP et le tracking. Est-ce que tu pourrais juste nous donner quelques éléments un peu plus concrets sur la façon dont ça fonctionne? Est-ce que tu es capable de faire ça en une ou deux minutes ou...
Oui, très rapidement, je peux donner l'exemple d'un entête qui existe. Il a pour nom Referrer, d'accord? Et en fait, c'est un entête qui, généralement, enfin dans tous les navigateurs modernes, il est rajouté dans toutes les requêtes HTTP qui sont envoyées vers un serveur. Et dans cette entête, il va indiquer la page sur laquelle vous étiez quand vous avez commencé à faire la requête pour la page suivante. Donc, ce n'est pas forcément très clair, mais par exemple, je suis sur mon moteur de recherche DuckDuckGo, par exemple. Je suis donc sur DuckDuckGo, je clique sur le lien du site vers lequel je veux aller. Et bien, quand il va faire la requête HTTP au serveur, mon navigateur, il va ajouter un entête référeur en disant que juste avant, j'étais sur duckduckgo.com. Et donc, ce mécanisme permet, du côté du serveur, de savoir sur quel site vous étiez avant d'arriver. Donc, ça peut s'assimiler à du tracking utilisateur. C'est un des mécanismes peut-être les plus simples qui peut se faire grâce à des entêtes HTTP.
Et on est d'accord que, du coup, ce mécanisme dont tu parles, là, en fait, on n'en a pas besoin pour consulter les ressources.
Non, en réalité, c'est vraiment utilisé pour des besoins de statistiques, généralement pour savoir d'où viennent les gens. Ce n'est pas techniquement nécessaire, ou alors dans des cas très précis, et ils sont tellement précis que là, je n'arriverai pas en 20 secondes à en trouver un qui soit facilement explicable, je pense.
Merci pour donc ce complément. Je vois qu'on n'est on est pas en retard et ta présentation a suscité plein de questions, donc je vais t'en poser une ou deux autres. Une remarque plutôt, je rappelle, hein, tu l'as bien dit, mais je ressouligne parce que c'est important. Le mot protocole, on peut le considérer comme un synonyme hein, du mot langage dans le cadre effectivement des échanges qui ont lieu dans le contexte du réseau informatique. Tu nous as dit tout à l'heure qu'une requête HTTP, c'était une demande et une réponse. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de réponses que le serveur peut donner selon par exemple qu'il est content ou pas content de ce qu'on lui demande ?
Bien sûr, exactement. Il y a un mécanisme donc, qui fait aussi partie du protocole HTTP. Quand le serveur envoie une réponse au client, il va ajouter ce qu'on appelle un code HTTP, donc c'est vraiment un code à trois chiffres. Hein. Et en fonction du code qu'il va renvoyer, ça va donner des informations au client sur l'état du traitement de la requête par le serveur. Alors, dit comme ça, ce n'est pas forcément très clair, mais par exemple, si vous allez sur un site web et que vous demandez une page, que le serveur vous la renvoie et qu'il n'a rien d'autre à dire, tout s'est bien passé, il va envoyer un code qui sera 200 pour dire « Ok, tout s'est bien passé ». Si par exemple, vous allez sur un site où vous devez vous authentifier pour pouvoir accéder à une ressource et que vous n'êtes pas authentifié quand vous faites la requête, le serveur, lui, va se rendre compte qu'on n'est pas authentifié et il va envoyer un autre code pour vous indiquer au client que la requête, il la comprend, mais qu'on n'est pas autorisé à accéder à la ressource. Et par exemple, dans ce cas-là, le code sera 403. Et allez, un petit dernier pour la route, un que la plupart des gens connaissent, c'est le code 404 qui nous arrive de voir quand on essaye d'accéder à une page qui n'existe pas sur le serveur. Le serveur dit ben, la ressource n'existe pas et donc renvoie un code 404 pour not found, il n'a pas trouvé la ressource.
Merci Kian. Allez, une dernière petite question. Tu l'as dit, le web aujourd'hui c'est HTTP. Peut-être qu'il est arrivé à certains dans un navigateur d'entrer un autre protocole. Est-ce qu'avec un navigateur, on peut mobiliser d'autres protocoles? Ce serait donc une première question, mais là, tu vas peut-être nous donner un ou deux exemples. Et puis, si tu le souhaites, il me semble qu'on on l'a déjà évoqué, et puis en clin d'œil à Stéphane Borsmeyer qui était là la dernière fois, on entend un tout petit peu parler en ce moment d'une alternative ou d'un parallèle possible avec le web et HTTP, que serait le protocole Gemini. Qui irait justement peut-être dans le sens de cette low-technicisation dont on a parlé avant. Je ne sais pas si tu veux nous en dire juste un petit mot de cette possibilité d'avoir d'autres choses que HTTP qui existent.
Bien sûr, comme je le disais dans l'URL, au début il y a le protocole qui est indiqué, et donc quand on fait du web c'est http://, ou HTTPS, j'en parlerai juste après. On peut avoir autre chose, il y a d'autres protocoles qui existent, qui ne permettent pas forcément de faire du web, mais qui parfois peuvent être utilisés par un navigateur qui est compatible. Par exemple, alors le premier auquel je pense, c'est par exemple le protocole FTP qui sert, en tout cas qui servait, qui est moins utilisé maintenant, mais qui sert à faire du transfert de fichiers entre une machine et un serveur, donc vraiment beaucoup plus basique que ce que peut permettre de faire un HTTP. Et donc là, l'URL va commencer par http://, et puis les informations nécessaires pour la connexion. Alors effectivement, donc, il y a d'autres protocoles qui existent et qui émergent. Le protocole Gemini en est un. Pour être très sincère, je suis assez peu connaisseur de ce protocole-là, qui effectivement, de ce que j'en sais, propose une alternative, ou en tout cas de faire ce que pourrait faire un protocole HTTP, mais en rendant les choses beaucoup plus simples pour des sites qui parfois n'ont pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires pour HTTP. Mais là, je pense que quelqu'un qui connaît mieux le protocole en parlera beaucoup mieux que moi.
Merci Kian de tout ça. Et bien, comme tu l'as suggéré toi-même, passons de HTTP à HTTPS, et donc extrait.
HTTP est le protocole utilisé pour interagir avec des ressources web. Il fonctionne sur un système client-serveur, le client faisant des requêtes et le serveur fournissant des réponses. C'est le protocole qui est utilisé par notre navigateur. Par exemple, si l'on tape fr.wikipedia.org, une requête HTTP est effectuée par le navigateur. Elle va demander le code source HTML de la page. D'autres requêtes sont aussi effectuées en parallèle pour obtenir les ressources, comme par exemple les images qui vont s'afficher sur cette page.
Oui, donc je ne sais pas si par téléphone vous l'avez reconnu, mais c'est ma douce voix que vous venez d'entendre, effectivement. Je pense qu'on en parlera à la fin, mais effectivement, un cours à ce sujet est disponible sur la plateforme LibreCours. Je pense qu'on en reparlera à la fin. Moi, je vais passer sur des sujets donc effectivement plus liés à la sécurisation. En fait, lors d'un échange HTTP, il est assez important de garder à l'esprit que les informations, elles circulent en clair. Ça veut simplement dire qu'elles ne sont pas chiffrées. Et donc, que quiconque a la capacité d'inspecter le trafic réseau peut lire concrètement tout ce qui est échangé. Donc, par exemple, le mot de passe que vous venez d'envoyer ou le document confidentiel que vous téléchargez. Ça veut aussi dire que s'il y a un intermédiaire qui intercepte le trafic, il sera en capacité de modifier puis de le renvoyer et donc d'usurper peut-être l'identité soit du client, soit du serveur, sans que ça puisse être détecté. Il faut savoir que le trafic réseau est ici dans la terre de nombreuses personnes, hein, toutes les personnes qui sont connectées à la même box ou au même réseau Wi-Fi que vous, votre fournisseur d'accès Internet, celui du site web qui est consulté, les opérateurs réseau qui acheminent le trafic, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est en capacité de voir le trafic. Et donc, pour résoudre ce problème, le protocole HTTPS, il a été proposé dès 1994. Et en fait, il s'agit tout simplement du protocole HTTP, hein, d'où son nom. HTTP, ça veut juste dire HTTP Secure. Et en fait, c'est le protocole HTTP qui est encapsulé dans un protocole de chiffrement qui est nommé TLS, pour Transport Layer Security. Le client et le serveur, ils vont continuer à communiquer avec le protocole HTTP, mais tous les échanges sont chiffrés par un protocole de couche supérieure. Il me semble que vous avez peut-être parlé du modèle OSI, mais en gros, il faut savoir simplement que le protocole HTTP, il est encapsulé dans du chiffrement. Et en réalité, HTTP, je pense que vous l'utilisez toutes et tous tous les jours. Il est généralement indiqué par un CADMA dans la barre d'adresse de notre navigateur. Et c'est devenu assez classique, hein, que les sites proposent du HTTPS parce que les enjeux de confidentialité sont devenus de plus en plus importants dans nos usages du numérique, hein, et du web en particulier. Donc. Alors, pour fonctionner, on ne va pas entrer en trop de détails techniques, mais il faut savoir que le protocole TLS, il a besoin d'échanger des clés de chiffrement entre le client et le serveur avant de pouvoir chiffrer le trafic HTTP. Si un intermédiaire malveillant intercepte l'échange de clés de chiffrement, ben on revient au problème de départ, hein. Il pourra remplacer par ses propres clés les clés de chiffrement, déchiffrer le trafic HTTPS et on aura fait tout ça pour rien. Donc il est nécessaire d'avoir un mécanisme qui va permettre d'authentifier le serveur avec lequel on va échanger pour s'assurer qu'il n'a pas usurpation et pouvoir avoir confiance dans les clés de chiffrement qui vont servir pour le reste de l'échange. Alors, ce mécanisme, c'est celui des certificats et de la chaîne de confiance. Un certificat, on peut simplement s'imaginer que c'est un document numérique qui va permettre, par un procédé cryptographique, il n'y a pas besoin de détailler plus que ça, mais par un procédé cryptographique, ce document numérique qui va permettre de certifier que le serveur avec lequel on échange est le bon serveur et pas un usurpateur. Si le navigateur web reçoit un certificat valide pour le site qu'il visite, dans ce cas, il sait qu'il peut avoir confiance dans les clés de chiffrement parce qu'il sait que c'est le serveur qui lui a répondu, et donc le navigateur peut garantir la confidentialité des échanges. Cependant, on a encore un problème, c'est que l'utilisation des certificats, il ne fait que décaler le problème. Comment on fait pour être certain que le certificat, ce n'est pas un faux produit par un serveur ou une personne malveillante qui voudrait usurper l'identité du serveur? Pour cela, et on en revient au mécanisme le plus important dont je vais vous parler, on s'appuie sur une méthode qu'on appelle la chaîne de confiance. Alors, une chaîne de confiance, on pourrait l'expliquer de manière un peu compliquée en disant que c'est l'ensemble des relations entre des entités qui vont se faire confiance et où la confiance est transitive. Mais en réalité, avec un exemple, vous allez voir, la notion, elle est extrêmement simple à comprendre. Imaginons que je fasse confiance à Quentin. Alors, il se trouve que c'est le cas, hein, c'est avec lui que j'ai préparé ce cours. J'ai une pleine confiance en lui et je sais qu'il n'accorde pas sa confiance à la légère. Si maintenant Quentin vient me voir en me disant qu'il accorde lui aussi sa confiance à Audrey, et qu'il me dit qu'il a confiance en elle et en sa capacité à faire confiance, bah, dans ce cas, moi aussi j'ai confiance en Audrey, parce que j'ai confiance en Quentin, qui a confiance en Audrey. Il y a une chaîne de confiance qui se crée. Puis ensuite, si Audrey elle a confiance en Stéphane et qu'elle le dit à Quentin, etc., etc., on remonte la chaîne, et moi, transitivité, donc je mets à avoir confiance en Stéphane. Si on remplace tout ça, donc les humains, hein, par des certificats, le fonctionnement est exactement le même. Tous les navigateurs web modernes vont intégrer une liste de certificats, en réalité environ une centaine, dans lesquels ils ont confiance. C'est des certificats qui sont émis par des entités, donc soit des entreprises ou d'autres types d'organisations, hein, pas forcément des entreprises, mais par des entités qu'on appelle des autorités de certification. Et ces entités, elles ont pour activité généralement uniquement d'émettre d'autres certificats. Donc si on est propriétaire d'un site web et que l'on veut utiliser HTTPS, il faut demander à une autorité de certification, alors parfois contre de l'argent, hein, il faut lui demander de nous fournir un certificat pour notre site qui sera signé cryptographiquement par l'autorité de certification. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail de ce qu'est la signature cryptographique, mais il faut simplement comprendre que les autorités de certification ont la possibilité de créer de nouveaux certificats avec l'identité des gens qui le demandent et par des mécanismes donc, qu'on ne détaillera pas, faire en sorte que ces certificats soient, on puisse être certain à coup sûr que c'est ces autorités-là qui les ont générés. Et donc, lorsqu'un navigateur web va recevoir le certificat, il va voir qu'il a été signé par le certificat d'une autorité de certification qui est digne de confiance pour le navigateur parce qu'il la connaît déjà, et donc il aura confiance dans le certificat du site web, et donc dans la sécurité, enfin, et donc il sait qu'il va pouvoir sécuriser l'échange parce qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui usurpe une identité. Alors, vraiment, encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas rentré dans les détails techniques et cryptographiques du fonctionnement du certificat, on est sur des choses qui sont assez complexes en réalité, mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est cette notion de chaîne de confiance, parce qu'en fait, c'est elle qui est la seule et unique garante d'échange sécurisé sur le web. Parce que dans un monde, donc encore une fois, on fait de plus en plus d'échanges numériques avec des aspects de notre vie de plus en plus confidentiels qui passent par des échanges numériques, en partie sur le web, la sécurisation de nos échanges, c'est un enjeu majeur. C'est permettre de comprendre qui a le pouvoir de garantir ou non la protection de notre vie privée, ou du moins en tout cas en partie celle qui passe par le web. Hein. Ce n'est pas toute notre vie privée qui passe par le web. Et donc, si on comprend la chaîne de confiance, on comprend rapidement que si une autorité de certification elle décide de créer un faux certificat et de le donner à une personne malveillante qui souhaite usurper l'identité d'un site web, elle en a la possibilité. Et quand ces entités, ce sont des agences gouvernementales ou de grandes entreprises, on peut légitimement s'inquiéter d'un potentiel détournement de ce pouvoir à des fins légitimes, comme de l'espionnage industriel ou de l'espionnage politique. Alors, il y a déjà des exemples qui sont documentés de ce genre de phénomène où des autorités de certification ont abusé de leur pouvoir. Je vois que le temps tourne, donc si ça intéresse, on peut en évoquer un ensuite, mais pour le moment, je pense que je préfère vous laisser la main là-dessus, au cas où il y a des questions peut-être plus chaudes sur des sujets plus techniques que ça.
Merci, Kian. Eh bien, Audrey, est-ce que tu as des questions de ton côté ?
Oui, bien, merci, Kian. Une question qui, je l'espère, pourra lancer aussi les étudiants et étudiantes qui sont bien calmes aujourd'hui. Une première question, peut-être, sur la distinction, enfin, ce qui est protégé ou non lorsque, avec HTTPS. C'est-à-dire que avec HTTPS, tu expliquais bien, Kian, que le contenu de la page et les informations qui sont transmises sont chiffrées, mais par exemple, ma navigation n'est pas protégée, n'est pas anonymisée, ou en tout cas, on peut toujours savoir que j'ai consulté la page, même si elle est en HTTPS, c'est ça ?
Exactement. Donc, la réponse est littéralement dans ta question. Les échanges sont chiffrés, le contenu des échanges sont chiffrés, mais le reste, donc on va dire les métadonnées qui permettent de décrire l'échange, ne le sont pas. Donc quelqu'un qui intercepte le trafic sera capable de dire aujourd'hui, à telle heure, j'ai consulté tel site, telle page. Par contre, la personne sera incapable de savoir quel était le contenu de la page, qu'est-ce que j'ai envoyé, etc., etc. Donc c'est vraiment le contenu qui est chiffré. Et si on veut faire du chiffrement de tout ce qui va se passer autour de l'échange. Là, par contre, il va falloir utiliser d'autres protocoles qui vont plus se jouer au niveau du réseau, qui sont un peu plus complexes à mettre en place.
Alors, en revanche, Kian, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que les paramètres qu'on trouve après le nom de domaine, l'adresse du serveur, eux, sont chiffrés avec HTTPS, de sorte que si sur DuckDuckGo, je fais une recherche et que les mots-clés de ma recherche se trouvent dans l'URL, ça, ils ne seront pas accessibles, si j'utilise HTTPS, à quelqu'un qui se mettrait au milieu.
Alors, en réalité, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça dépend du comportement du navigateur client. La plupart des paramètres ne seront pas visibles. Ceux qui sont directement visibles dans l'URL peuvent, selon le comportement du client, être visibles dans l'échange. Là, honnêtement, c'est un détail un tout petit peu technique, mais une partie peut être visible si nécessaire, mais en fait, on l'utilise généralement pas. C'est des paramètres qui sont généralement pas confidentiels.
Du coup, Kian, peut-être que tu nous avais teasé un petit peu là sur la question des autorités de certification. Hein. Je refais un résumé de ton résumé, donc il va pas en rester grand chose, mais juste pour qu'on se remette bien les choses en tête. Donc d'abord, en fait, plutôt si je pars de la fin, l'enjeu est donc pour le client et le serveur d'échanger des informations chiffrées. Donc pour ça, il faut qu'on soit échangé une clé de chiffrement. Alors on n'a pas exactement dit ce que c'était, mais en fait on peut faire une analogie. C'est une sorte de code sur lequel on se met d'accord. Imaginons que personne d'autre ne parle japonais. Eh bien, je vais dire à Quentin par exemple, on est d'accord, on va se mettre tous les deux à parler en japonais. Donc c'est en fait la façon dont on se met d'accord sur le code qu'on va utiliser, ou si on prend quelque chose comme le chiffre de César, eh bien on va se mettre d'accord tous les deux pour dire, bon, on décale toutes nos lettres de six caractères dans l'alphabet. Voilà, donc c'est la façon dont on se met d'accord pour chiffrer. Bien sûr, les exemples que j'ai pris là sont triviaux et les mécanismes de chiffrement sont beaucoup plus complexes, mais l'idée générale, c'est de s'échanger la façon dont on chiffre. Et comme tu l'as dit, pour arriver à faire ça, eh bien, il faut d'abord qu'on ait un moyen de communiquer qui lui-même soit sûr. En fait, c'est là où on a un truc qui est un peu qui est pas simple à initier. Donc c'est là que entre en ligne de compte le mécanisme de certificat. Et donc il faut qu'on passe par un tiers. On a nécessité à un moment de faire confiance nous-mêmes à un tiers. Et comme tu l'as dit toi-même, eh bien, il y a des enjeux autour de cela. Donc peut-être que si tu veux repréciser des choses par rapport à ce que je viens de dire, et où nous donner l'exemple dont tu parlais, eh bien, il est bienvenu.
Bien sûr, donc c'est exactement ça. Disons que dans l'Antiquité, si on voulait faire du chiffrement, par exemple du chiffre de César, parce que c'est peut-être un qui est simple à comprendre, la seule clé qu'il faut connaître, c'est le nombre de décalages qu'on fait dans l'aide de lettres dans l'alphabet. On se mettait d'accord, on se parlait, on se disait voilà, c'est ça le code qu'on va utiliser, et puis ensuite on s'envoyait des messages en le faisant. Là, le problème, c'est qu'on ne va pas aller à pied vers le serveur pour décider de quel protocole on va utiliser, revenir chez soi, utiliser le. Enfin, pas le protocole, pardon, quel clé on va utiliser, revenir et se mettre à utiliser la clé. Donc on a effectivement ce souci de pouvoir authentifier un échange sur un réseau qui n'est pas forcément sûr, et c'est pour ça que la chaîne de confiance est là, c'est un formidable outil qui permet de le faire. Il y a un maillon faible, c'est ceux qui sont en haut de la chaîne ou en bas, ça dépend comment on la regarde, et les autorités de certification dans lesquelles le navigateur choisit d'avoir confiance, des fois elles sont défaillantes. Et donc il y a un exemple, effectivement, c'est fin 2012, début 2013, il y a Google qui s'est rendu compte que la société de transport public de Ankara, donc en Turquie, elle avait mis en place quelques jours plus tôt un certificat valide qui permettait d'usurper l'identité de nombreux serveurs de Google, dans l'objectif d'espionner le trafic HTTPS des employés vers ces services Google. Alors, le fameux certificat valide, il avait été fourni par Turk Trust, qui est une autorité de certification gouvernementale turque, qui était, donc à l'époque, hein, puisque ça a changé depuis, a été considérée de confiance par les principaux navigateurs. Et même si on pense que Turk Trust, à l'époque, n'avait pas forcément l'intention, la notion de malveillante à l'époque, il se trouve que l'autorité de certification, elle a quand même failli clairement à son rôle. Elle a donné un certificat à une personne qui ne devait pas l'avoir, hein, c'est-à-dire une société de transport public en Turquie n'avait pas à avoir de certificat permettant d'authentifier les serveurs de Google. Et on note que c'est une autorité gouvernementale et que c'est potentiellement à des autorités gouvernementales que ce sera adressé. Une agence de renseignement, s'il avait besoin d'un certificat usurpé. Et dans ce cas-là, on se demande qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et peut-être que c'est des activités même qui peuvent être déjà faites sans qu'on le sache vraiment. Parce qu'effectivement, il y a aussi des autorités gouvernementales ou des entreprises privées qui ont ce pouvoir d'être autorité de certification. Et alors, pour terminer vraiment en complétant, en vraiment une petite 30 petites secondes, il existe des entités, des autorités de certification qui sont des organisations à but non lucratif, et LetsEncrypt qui existe, vous pourrez chercher, est une qui permet de proposer des certificats de manière gratuite en plus, et qui est très utilisée aujourd'hui parce qu'elle, disons qu'elle est plus de confiance que peut-être l'autorité gouvernementale d'un pays qu'on ne connaît pas forcément, quoi.
Merci beaucoup, Kian, pour ce dernier chapitre là sur HTTPS. Hein, donc, on peut retenir, encore une fois, en resimplifiant ce que tu as déjà simplifié, mais donc si on utilise uniquement le protocole HTTP, donc ça, un utilisateur le voit directement dans la barre d'adresse quand on a http://// au lieu de HTTPS. Moi, j'ai connu un temps où il n'y avait que ça hein, sur le web. Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, tout le monde, ou en tout cas beaucoup de monde, est en capacité de voir l'ensemble du travail. Donc comme tu l'as dit, eh bien, si on communique en HTTP, ça veut dire que tout ce qu'on communique, c'est un petit peu comme si on le criait dans la rue, et tu nous as même mis le doigt sur quelque chose de peut-être d'encore plus important. Potentiellement, les ressources que l'on récupère, eh bien, ne sont pas forcément celles que l'on veut. Elles peuvent avoir été transformées dans le processus. Alors, c'est pas forcément dramatique. Hein, encore une fois, j'ai longtemps utilisé le web dans ces conditions, mais effectivement, c'est en tout cas très très important d'en avoir conscience. Comme tu l'as dit, donc HTTPS permet de régler ce problème à la question des autorités près. Hein, donc, avec du coup, ça. Comme tu l'as dit, hein, déplacer le problème, il faut se préoccuper à présent de la question des autorités de certification. Et puis, on peut retenir également que même lorsque l'on utilise HTTPS, eh bien, ça n'empêche absolument pas de savoir qui communique avec qui, puisque l'ensemble des adresses IP qui communiquent avec les autres adresses IP, donc les clients et les serveurs qui communiquent sur Internet à travers ici le protocole HTTP, eh bien, on a évidemment là l'information de qui communique avec qui. Hein. C'est un petit peu comme si on pouvait voir, tout le monde pouvait voir en quelque sorte quels sont les noms qui sont sur les enveloppes dans un centre de tri postal. Eh bien, je ne sais pas, Kian et Quentin, si vous voulez ajouter quelque chose, et puis sinon, on va s'orienter vers la clôture. Ah, si je voulais ajouter, effectivement, on a raté un petit peu notre effet de manche, Kian, avec ton extrait qui intervenait pendant ton intervention. L'idée était de réannoncer, mais j'en ai parlé un petit peu. Hein, si vous êtes intéressé par approfondir ces questions d'internet, de web, de réseau, eh bien, sur librecours.net, on a d'autres cours qui se déroulent en ce moment, qui sont en train de naître et qu'on va certainement prolonger. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. C'est bon pour moi. Je ne sais pas si Kian et Quentin voulaient ajouter quelque chose.
C'est tout bon pour moi. Je suis ravi d'avoir participé.
Tout pareil.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, vous pourrez réécouter l'émission du jour sur graphite.net et sur l'instance Peertube, aperi.tube, sur la chaîne Upload. Comme d'habitude, les supports et les exercices sont à retrouver sur librecours.net. La semaine prochaine, on se retrouve pour un court émission sur le fait divers, l'univers des médias sociaux, libres, décentralisés, fédérés. Et puis, d'ici là, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur team.picassoft.net, équipe W01, pour échanger avec nous. Bon après-midi.
Upload UTC, Stéphane Crevin, Audrey Guélou.